Et bonjour Moulinois et Moulinoises, ici Pauline pour Incitation à l'éloquence, des rencontres avec les artistes et celles et ceux qui les soutiennent dans le quartier. Aujourd'hui, nous recevons fort bon Enza Kimwena, musicien, comédien et directeur artistique lillois, à qui je vais poser les questions que nous avons préparées avec Noufila, qui a participé à l'un de tes ateliers, car nous nous sommes rencontrés au travers de la création de ton spectacle sur l'adolescence, Tumu, Tumeur, pour lequel tu collectes des voix de jeunes. Bien avant cela, nous avions déjà entendu parler de toi à la maison de quartier Les Moulins. Des collègues avaient assisté à un de tes concerts au Flow avec YN et nous ont envoyé sans tarder des liens pour qu'on parle de toi à la radio, ayant reconnu en toi beaucoup de talent, mais aussi ayant reconnu que tu étais un adhérent de la maison de quartier Les Moulins. Et donc, bienvenue à toi, fort bon.
Merci. Merci pour l'invitation.
Du coup, l'invitation dans la web radio de quartier Moulins, c'est un quartier que tu connais bien ?
Ah bah oui, du coup, j'y habite plus depuis quelques mois. Mais ouais, moi, à la base, je suis arrivé du coup à Lille en 2015, puisque j'habitais à Paris à l'époque. Et je suis venu avec ex-femme et enfant. Et j'atterris directement ici, voilà,
ouais,
8 rue Philippe de Comines, précisément.
On va pouvoir venir faire des recherches dans le quartier. On fait des balades de quartier aussi, des balades sonores.
Ouais.
On te mettra sur le parcours.
C'est ça.
Ici, avec Ufortbon. Et du coup, t'es arrivé en 2015, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, je suis arrivé en 2015 et du coup, j'ai quitté du coup, le quartier en 2021. Voilà, j'habite maintenant à Roubaix.
Ok.
Mais moi, j'ai encore des fortes attaches encore dans le quartier. Ben, du coup, la mère de mes enfants habite encore ici. Ma fille est encore scolarisée dans le quartier à l'école Philippe de Comines.
Voilà.
Encore une fois. Ce bon vieux Philippe. voilà, en grande section. Moi, c'est mon quartier préféré à Lille, clairement.
Et dans le quartier, il y a un coin que t'aimes bien
Ah, le Lyotet. C'était un peu mon deuxième salon. Et okay. Ça l'est encore un peu. Maintenant que je suis à Roubaix, ça fait un peu plus loin. Mais dès que j'y vais, voilà, les frites de Dédé, pour moi, c'est juste. C'est juste une institution.
Et c'est à côté de la maison Folie Moulin et du Flot, donc c'est pratique.
Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que moi, quand j'y habitais, c'était vraiment. Moi, je suis très pantoufleur. Moi, quand je m'installe dans un quartier et que je me sens bien. J'ai mes habitudes et voilà, donc j'avais un local aussi.
OK.
À IPN. Enfin
ouais.
Le local s'appelait IPN, c'était sur la rue de Valenciennes, il me semble.
Oui, juste ouais. À côté des résidences Trévis,
voilà,
tout
juste
ça.
À côté des résidences Trévis.
Pas loin du cinéma L'Univers.
Pas loin du cinéma L'Univers aussi que je côtoyais bien,
à côté de la boulange.
À côté de la super boulange avec mon sandwich favori maïs pain au maïs l'Indien curry. Ouais, je prends souvent l'Indien curry. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout à l'heure à la fin de l'interview. Je vais prendre mon Indien curry à 4 €. Et puis après, quand on s'est séparé avec la mère de mes enfants, j'avais un appartement à rue de Douai.
Mm-hmm.
Voilà, juste au-dessus du bar Les 18 Ponts.
Oui. Ouais, des lieux mythiques
voilà,
du quartier. Quoi.
Exactement. Et en face du Carrefour Market.
Voilà. À côté d'un tatoueur. Enfin, il y a toujours du monde autour de
exactement.
Toi.
Hein, okay. Exactement. J'ai des potes à la cour Écacan. Enfin voilà. Donc non.
Ah
non,
oui,
ouais.
Tu t'es vite intégré. Ouais. À Lille, c'est pas très compliqué, mais en effet, là, t'as fait terrain quoi. Tu t'es posé dans le quartier.
Bah tu vois, pour moi, je me sens plus moulinois que lillois.
Tu vois,
j'ai vraiment une forte attache à ce quartier parce qu'en fait c'est un peu tout ce que j'ai connu, c'est tout ce que le positif de tout ce que j'ai connu à Paris en fait.
Okay.
C'est à la fois t'as ce côté vraiment quartier avec cet univers très urbain avec ses bons et ses mauvais côtés, mais moi c'est des atmosphères que j'ai connues étant plus petit et où je me sens en sécurité, où je me sens bien, où je me sens chez moi. Et puis aussi, t'as cette vie culturelle, ce tissu associatif qui fait que, tu, Voilà, étant parent à Moulins, enfin voilà, à la maison de quartier où j'allais à la ludothèque, ou voilà, quand j'étais en galère de place pour mettre mes enfants en centre aéré, ben voilà, c'était possible aussi ici pendant les vacances. Enfin, donc voilà, enfin, c'est vrai que voilà, moi, c'est vrai que ce quartier-là, j'y trouve vraiment beaucoup de. Voilà, beaucoup de choses très très agréables à vivre.
De la dépanne, de la vie culturelle, des bons moments conviviaux dans les cafés et tout. Donc, Moulin, c'est super bien.
Exactement,
On
exactement.
va penser à ça pour un nouveau jingle.
C'est ça.
Donc, pour un peu mieux te connaître, donc, voilà, on sent que tu connais bien le quartier. C'est cool, du coup, de te recevoir sur Radio Moulin pour parler de ton travail. Donc, on va te proposer de faire un petit retour en arrière, mais un peu plus loin que ton arrivée à Moulin. On sait, parce qu'on a fait des recherches avec Noufila, qu'après ton bac, tu as fait une classe prépa littéraire à Nanterre, donc c'est en région parisienne.
C'est ça.
Et c'était quoi ton objectif à ce moment-là quand tu disais, bah, je vais faire une prépa littéraire?
Bah, je savais pas quoi faire. Voilà, donc voilà, tous les gens qui en ressortant du bac ont des bonnes notes et qui savent pas quoi faire, bon, ils font une prépa. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait une prépa littéraire et donc c'était bien parce que du coup ça m'a permis de savoir ce que j'avais envie de faire. Et alors je savais pas ce que j'avais envie de faire, et précisément, mais je savais que j'avais envie de travailler dans la culture. Je savais que j'avais envie de trouver une place dans cet univers-là.
Et qu'est-ce qu'on y fait en prépa littéraire? T'as découvert peut-être un rapport au texte?
Non, en vrai, ça
Non?
m'a un peu traumatisé.
Ok.
Ça m'a un peu traumatisé parce que c'est beaucoup de gavage, quoi. C'est beaucoup de gavage, c'est beaucoup de travail. Et puis ouais, et puis en plus, je suis pas tombé sur une classe avec une certaine cohésion. Donc c'est un peu tout ou rien, c'est vrai que les prépas, c'est soit tu tombes sur des classes où voilà, c'est du coup face à la blinde de travail, il y a une solidarité, un esprit de camaraderie qui fait que tu peux te reposer voilà, sur tes collègues de classe. Mais là non, là c'était plutôt l'inverse, c'était vraiment la compète, donc
Solo.
ouais, c'était un peu solo. Mais à l'inverse, je me suis beaucoup plus ouvert à la vie culturelle à Paris. Parce que, étant à Nanterre, tu es sur le RER A, tu es vraiment à un quart d'heure de tout, sinon à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à avoir énormément de concerts. C'était mes premiers scène slam aussi, que j'ai découvert.
C'est-à-dire, les scènes slam, pardon.
Les scène slam, je les ai découverts là-bas, dans un café que je côtoyais beaucoup à l'époque, qui maintenant. Enfin, n'existe plus. Enfin, en tout cas, ce café ne reçoit plus ces scènes-là. C'était le Downtown à Paris, où j'ai rencontré voilà des amis, où j'ai rencontré, où je me suis rencontré aussi artistiquement. Et de là, à partir de là, bah, j'ai fait énormément de rencontres qui m'ont voilà qui ont petit à petit en fait précisé mon envie vraiment de vraiment faire de la musique, d'écrire, d'avoir des choses à dire et de les formuler et de les mettre en forme artistiquement.
Et là, du coup, là, c'est prépa ou c'était déjà, parce qu'après, tu as enchaîné avec licence médiation culturelle, donc là, tu sens que la culture, c'est ton truc. Donc,
Voilà.
c'est en même temps, quand tu fais cette prépa, que tu es au downtown en train de découvrir la scène slam,
Ouais,
ça, c'est à
carrément.
ce moment-là.
Ouais,
Et du coup,
carrément.
après, tu pars à Paris 3 pour faire une licence en médiation culturelle. Et du coup, est-ce que cette envie de faire une licence médiation culturelle, c'était aussi. Qu'est-ce que tu cherchais en fait? Parce que là, tu commences à expérimenter tes premières. Peut-être que tu commences à écrire, que tu commences à poser des textes avec ta voix. C'était quoi le lien pour toi entre cette étude, ces licences et.
Et bah, ce qui s'est passé pendant la licence, alors il s'est passé énormément de choses pendant ces 2 ans de licence. Ce qui s'est passé, c'est que bah, en rentrant dans la licence, voilà, je savais, j'étais vraiment à ma place. Je savais vraiment que c'était dans ce domaine-là que je voulais travailler. Donc, à côté des licences, je m'investissais dans plein de projets bénévolement, dans des associations, dans des événements culturels où j'avais ce rôle-là d'être en lien entre les artistes et public. Et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la fac, j'ai été embauché par la fac dans le bureau du service d'action culturelle, où j'avais un poste pour permettre aux étudiants de les accompagner dans leurs projets culturels et artistiques. Donc, dès qu'ils avaient un projet artistique où ils voulaient faire un concert dans la fac, où ils voulaient qu'on les mette en lien avec d'autres professionnels, ben, du coup, c'était mon rôle.
Yes.
Et donc, c'était super parce que j'avais à la fois le statut d'étudiant et d'employé
Trop bien.
à la fac. Et donc, c'était super. Enfin, franchement, j'ai eu peu de jobs dans ma vie, mais celui-là, vraiment, c'était.
Bah,
Il était vraiment, ouais, il était vraiment, vraiment cool.
on devait te l'envier.
Ouais. Et puis, à la fin de ma licence, je suis devenu papa.
Yes.
Je suis
OK.
devenu papa. Et j'ai aussi participé à un projet où c'était un concours qui m'a permis de. J'ai été lauréat de ce concours et ce concours m'a permis de voyager à New York.
Ok.
Donc c'était mon premier voyage en avion.
Trop bien.
Et j'ai voyagé à New York pour faire des concerts, pour enregistrer en studio. Et c'était vraiment quasiment en même temps que voilà que j'ai eu que la mère de mes enfants m'a annoncé
Ah oui,
que
d'accord.
qu'elle était tombée enceinte. Et voilà, clairement à ce moment-là je me suis dit ouais c'est ça que je veux faire, c'est
Ok.
ça que je veux faire de ma vie. Enfin
Tu veux
c'est
écrire?
ouais
Est-ce
je
que ce
veux
concours, tu l'as eu en écrivant? Comment
Ouais,
ça s'est passé?
je l'ai eu en écrivant. C'est un concours qui s'appelait No States, qui était organisé par un cinéaste qui s'appelle Richard Daley. Si m'entends, je le salue bien fort. Et donc, c'était un concours où l'idée, c'était dans une année où la ville de Paris avait des liens avec les États-Unis. Et donc, du coup, ce concours, il a été créé dans cette optique-là, de découvrir en fait des talents. Dans le milieu du hip-hop, quoi, donc des rappeurs, des slammers, etc. Et donc j'ai gagné ce concours, et ce concours, du coup, l'idée c'était comme un contest, en fait, d'écrire, en fait, c'était un thème imposé sur du coup, l'identité franco-américaine. Et j'ai écrit un texte que j'ai performé en live, et le jury m'a validé, et j'ai pris mon billet,
Ça fait trop plaisir, non?
Bah ouais, ça fait plaisir parce que en fait c'était un moment en fait dans mon parcours où je tâtonnais, j'expérimentais quoi. C'était il y a 10 ans quoi, j'avais 21, 22 ans et à ce moment-là je me posais la question. Enfin, j'étais en train de me chercher, je me posais la question de ben voilà, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des univers qui m'intéressent, mais
Comment on y accède,
Voilà, comment
comment...
on y accède, comment les concrétiser professionnellement, financièrement, pour plus que ce soit un rêve. Donc je voyais qu'il y avait des possibilités, mais je me l'avouais pas, j'osais pas, voilà, l'assumer totalement. Et c'est clairement à ce moment-là où j'ai vraiment pris le train en marche. Et après, ben, c'est un cercle vertueux, quoi. Tu rencontres une
Ouais.
personne, tu rencontres une personne, et puis au final, ben, sans t'en rendre compte, ben, tu deviens intermittent, tu vis de... Et voilà, quoi.
Mais ça allait très vite parce que tu dis que tu t'es découvert avec le downtown, avec la scène slam. Du coup, que ta pratique d'écriture ou de composition, ça a commencé quand concrètement? Vraiment, tu avais une idée, tu avais une sensibilité et tu avais fait des choses en cachette un peu avant
voilà,
de
ouais.
voir ces choses-là ou tu as découvert la pratique et tu as eu envie de faire?
Ouais, c'était en cachette. Moi, j'ai toujours écrit. J'ai toujours
Ouais.
écrit, même plus jeune. Enfin, j'ai tellement écrit que j'arrive même plus à te dire quand
D'accord.
exactement. Mais j'ai des souvenirs de moi, même en CM1, CM2, où j'écrivais des poèmes sur la lune. Enfin, j'ai toujours eu un rapport très particulier avec l'écriture. D'autant plus que moi, j'ai appris à. Enfin, j'ai parlé très tard. J'ai parlé à 5 ans.
Ouais,
Et
OK.
de mes 0 à 5 ans, j'avais une manière de communiquer qui était la mienne. Et il fallait que je compense par d'autres choses, quoi. Donc c'était par des choses, des activités très introspectives. Et l'écriture en faisait partie. Et
OK.
ça a toujours été un refuge pour moi. Ça a toujours été quelque chose de très intime.
Du coup, là, tu es autodidacte, donc
Oui.
sur l'écriture et sur la composition, parce que on a pu voir que tu composais aussi.
Oui, pareil. Pareil, pareil, c'est autodidacte. Moi, je compose beaucoup avec ma voix. J'ai un looper.
Pour faire des boucles,
voilà,
je traduis.
Pour faire des boucles. Et c'est comme ça, en fait, que c'est la base, en fait, de mes compositions. Et après, soit j'étoffe moi-même, soit en collaboration avec d'autres artistes, je concrétise un peu plus mes compositions. Mais pareil aussi, je joue pas d'instrument.
Mais qui t'a mis les mains dessus? Est-ce que t'as eu de l'aide? Est-ce que c'est quelque chose que t'as vu sur internet, t'as acheté, t'as observé chez les autres?
Ouais, j'ai observé chez les autres. Alors j'ai participé à un atelier il y a quelques années qui m'a vraiment ouvert les yeux sur cette manière de composer. C'était un artiste qui s'appelle Ded Kabal. Qui proposait un atelier quand j'habitais à Nanterre à la maison Daniel Ferry, qui est une salle dans la ville, où c'était un atelier Loop Station. Donc c'était un atelier qui permettait d'apprendre, en fait, à utiliser cette machine qui permet de créer des boucles. Et en fait, à la sortie de cet atelier, j'ai dit, c'est ça que je veux. Je veux l'acheter, je veux la mienne. Donc, du coup, j'ai craqué ma tirelire et j'ai commencé à travailler de cette façon. Et puis, c'était chouette parce que ce qui est cool avec la Loop Station, c'est que c'est très intuitif. C'est très intuitif, c'est très ludique. Et en même temps, on peut arriver à des résultats qui sont vraiment chouettes. Mmh. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à avoir une première relation avec la composition musicale. Et de là, en apprenant aussi, en mettant le... J'ai un ami aussi qui m'a appris à utiliser Pro Tools. Et
des logiciels, du coup, qui peuvent servir à la composition musicale et autres.
Hein, voilà, au montage, audio. Et à partir de là, j'ai commencé à faire mes premières maquettes. Ouais.
Cool, donc ouais, il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Mmh. Et tu parlais des rencontres aussi que tu as pu faire, qui ont été importantes pour toi avec cette scène slam. Est-ce que tu veux parler de rencontres particulières, de personnes sur lesquelles peut-être tu t'es inspiré ou qui ont été un peu des moteurs pour toi dans ces années-là?
Ouais, il y a Ded Kabal notamment, qui a été une belle rencontre. Et j'ai eu la chance et l'honneur de travailler après avec lui par la suite sur mon premier spectacle. Donc c'était une belle filiation. Pareil aussi, Richard Daley aussi, au moment de ce concours que j'ai gagné aussi, ça a été très révélateur. J'ai un ami aussi que j'estime beaucoup qui s'appelle Kemo, c'était mon binôme de scène. À cette époque-là, on a vraiment fait toutes les scènes de Navarre, de Paris. Et en plus, c'était bien parce que c'était à une époque où le slam avait explosé. C'était vers 2011-2012, avec le premier album de Grand Corps Malade et tout ça, ça devenait de... Le collectif 129H, ça commence à exploser. Et c'est maintenant, aujourd'hui, tu peux faire des scènes slam sur Paris. En tout cas, tu peux en faire tous les jours. Quoi. Mm-hmm. Il y a tous les jours une nouvelle scène qui ouvrait. Aujourd'hui, je m'en suis un peu éloigné de fait. Mais à cette époque-là, pendant 3-4 ans, non-stop, tous les soirs, on trouvait toujours une scène slam, soit à Paris, soit en banlieue. Et Kemo, c'était avec lui que je faisais ces scènes. Qu'il y avait une seule émulation entre nous dans l'écriture. Et puis ça a dépassé le cadre, justement, de la pure création liée. Littéraire, quoi. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui c'est un frère, quoi. C'est vraiment un copain très cher. Et c'est une très belle plume aussi, un très bel artiste qui m'inspire beaucoup.
Cool. Oui. Et après, là, tu parles vachement de la scène slam, mais quand tu parlais de composition et que tu faisais avec ta voix, du coup, j'imagine que ça se rapproche du beatbox.
Oui, bah, ouais. Le beatbox. Bah,
et cette scène-là, comment... c'est peut-être une scène différente, qui est peut-être proche, mais
alors,
je sais
ça,
pas.
Alors, cette scène, je ne l'ai jamais vraiment côtoyée, je n'ai jamais vraiment mis le pied dedans, parce qu'en fait, ça m'a toujours très impressionné. Je me sens... J'ai un peu un complexe de l'imposteur. En fait, c'est dans tout mon parcours, en fait, j'ai vraiment découvert autant l'écriture, le rap, la mise en scène, etc., de manière très autodidacte. Voilà, ça a toujours été par le biais de rencontres, voilà, très proches, qui m'ont emmené d'un univers à un autre. Enfin, j'ai vraiment la sensation de passer de main en main, en fait. Donc, du coup, j'ai pas la sensation de vraiment avoir appartenu à un mouvement, à un groupe, parce que j'ai une relation à l'art qui est au final très, très intime. Et notamment, du coup, sur toute la scène beatbox, où voilà, je crois que c'est la scène que j'ai pas osé côtoyer, parce que je me sentais pas. Je me sens, même encore aujourd'hui, je me sens très limité dans ma pratique du beatbox. Alors, ça m'a pas empêché de faire des choses super chouettes et que mes compétences soient reconnues. Mais voilà, j'ai jamais osé faire une battle de
Bah, une
beatbox,
battle, c'est
par exemple.
impressionnant,
Ouais,
ouais. Ouais.
et puis en termes de confiance en soi, d'estime de soi, il faut vraiment, voilà, avoir énormément de courage, et ça, je l'ai pas encore eu. Mais peut-être que la vie est pas finie, hein. Peut-être que je m'y mettrai. Mais ouais, en tout cas, oui, le beatbox. Parce que dans le slam, dans les scènes slam, il y a plusieurs règles, et l'une des règles, c'est de faire des textes sans accompagnement sonore. Et au final, plus je faisais des textes, et plus je me sentais limité, en fait, d'avoir le besoin d'étoffer, en fait, mes textes, voilà, justement, en trouvant des alternatives pour les enrichir aussi, d'accéder à une certaine musicalité. Et du coup, le beatbox, ça m'a aidé,
Ok.
ça m'a pas mal aidé. Donc, je regardais des vidéos sur YouTube, de beatboxeurs comme Kenny Mohamed, ou Razel, ou Bobby McFerrin aussi, où j'écoutais tout ça, et puis je m'entraînais. Et j'ai pris le virus, quoi. Et il y avait même des fois où je sais pas, je beatboxais pendant peut-être, je sais pas moi, 4-5 heures par jour,
Ouais.
en allant dans les métros, et juste de travailler comme ça de manière solitaire. Et ça j'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et découvrir dans chacun
Ouais.
de ces arts-là. Enfin, en fait, c'est un peu le point commun entre toutes mes pratiques. Dans l'écriture, dans le rap ou dans la composition, je suis très attiré par les choses qui nécessitent pas une formation académique très poussée, qui permet, en fait, de travailler par toi-même, et ça,
Et
c'est
qui te plonge dans ta bulle
et
aussi
qui
un petit peu,
exactement qui te plonge dans
ouais.
ta bulle, et où t'as pas grand-chose, t'as pas besoin de grand-chose, quoi. Pour écrire un texte, ben, t'as besoin d'une feuille, d'un stylo, de ton imagination. Pour beatboxer, t'as besoin de ton air, de ta bouche, et de tes références. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que j'aime beaucoup, de travailler à partir de rien, de travailler à partir de soi. Et ça, c'est, ouais, ça, c'est quelque chose que j'affectionne pas mal.
Bah cool, et du coup, tout à l'heure, tu disais aussi donc tu t'intéressais fortement, tu sentais que le milieu de la culture c'était pour toi, et du coup, tu nous as parlé beaucoup de rapport au slam, au rapport beatbox, peut-être plus, donc on est plus sur une scène, plus sur les mots, sur la musique peut-être.
Oui.
Est-ce que tu avais aussi d'autres attraits, tu vois, est-ce que tu étais attiré par d'autres scènes, d'autres disciplines
Oui, le théâtre. Le
Ouais.
théâtre aussi. Bah, pareil, à cette époque-là, donc pendant ma prépa, j'étais en prépa lettres option théâtre. Donc il y avait 4 heures par semaine où j'avais 2 heures de pratique et 2 heures de
Ok.
théorie. Et ça, c'était un peu ma bouffée d'air pendant la prépa.
Donc ça t'a permis ça, t'avais jamais touché au théâtre avant la prépa.
Non, pas de manière aussi poussée. Je l'avais fait une fois en CM2, mais c'était bien parce que j'avais le rôle principal. C'était ma seule expérience à 10 ans. Et bah, elle est revenue comme ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé parce que c'était le moment où j'avais besoin, voilà, de décharger, d'exprimer des choses. Et du coup, j'utilisais ça pour un peu voilà pour un peu m'évader de cette période scolaire où voilà où je me sentais pas super épanoui et
Donc
de
t'allais
là
voir du théâtre du coup.
j'allais voir du théâtre, j'en faisais aussi et on avait fait une restitution d'un spectacle au Théâtre des Amandiers à Nanterre et c'est de là en fait que j'ai rencontré du monde qui m'ont proposé des rôles. Et en basculant du coup à la fac, je jouais aussi dans un spectacle qui s'appelait Conakrika, d'un
Ouais, on va en
auteur.
reparler un
Ouais.
petit peu après, parce que c'est encore une autre facette, donc on va prendre un peu plus de temps là-dessus.
Oui.
Mais du coup, vous entendez, chers auditeurs et auditrices, qu'il y a il y a beaucoup de choses. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vais te proposer un peu de clôturer cette partie parcours,
Ah,
un
je
peu
t'en prie.
référence, tout ça,
Je t'en prie.
avec. Peut-être, tu vois, s'il y a des artistes que tu regardais et qui t'inspiraient pour créer peut-être des formes nouvelles ou quoi, qu'est-ce que tu regardais à ce moment-là qui n'était pas forcément en proximité ou tu vois des personnes que tu côtoyais directement, mais des choses que tu as pu découvrir par exemple au travers de tes études ou quoi, des grandes références artistiques, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit. Est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui pouvaient te faire rêver et qui t'ont inspiré, qui t'ont donné des idées
Ah, c'est une bonne question, ça.
C'est
Ah,
pas
ça.
facile, hein, t'as le droit de
Ah,
sécher, hein, tu peux y réfléchir et répondre plus tard,
ah bah écoute, si je te vois, carrément,
peut-être.
dès que ça me revient, je te coupe la parole. Je dis, oh, en fait!
Voilà, parce que des fois on voit
Bah
des
ouais.
choses et on se dit, waouh, mais ça, en fait, ça c'est délire, j'ai jamais vu ça, ça me motive. Et du coup, c'était pour savoir si t'avais eu comme ça, t'avais vu passer des artistes ou des œuvres dans ton parcours qui t'avait fait ce déclic-là, mais on pourra y revenir plus tard.
Carrément.
Et on va faire une petite pause musicale. Donc,
Vas-y, je t'en prie.
sur déjà, qu'est-ce que t'écoutais à ce moment-là, toi?
Ah, moi j'écoutais beaucoup de rap. Hein. Ouais,
Ouais,
beaucoup,
ok.
beaucoup, beaucoup de rap. Moi j'ai grandi dans un coin où, à Villiers-le-Bel. Du coup, moi j'ai grandi dans le 95, qui était une terre de rap à l'époque. Donc, moi j'ai grandi à l'époque des premières classes, de Arsenic. Des ministères Hammer, c'était, j'avais entre 8 et 12 ans et j'avais deux grands frères qui étaient vraiment des niqués de rap, qui en écoutaient tout le temps et qui m'ont transmis du coup, qui m'ont transmis le virus et depuis ça m'a jamais vraiment quitté. Et ce qui est bien avec le rap, c'est qu'avec la culture du sample, eh ben, tu t'ouvres à plein d'autres musiques et ils m'ont aussi transmis aussi cette curiosité de savoir en fait ce qui se cache derrière les samples que les compositeurs de rap utilisait. Et c'est là aussi par le rap que j'ai découvert le jazz, que j'ai découvert le rock, que j'ai découvert voilà tout ce qui est la musique, ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot, mais c'est la musique world,
Musique du
voilà
monde.
la musique du monde, en écoutant voilà des choses d'Amérique du Sud, d'Afrique, et puis mes parents aussi écoutaient beaucoup de musique quoi. Donc moi je suis d'origine congolaise. Et voilà, on est à la maison, il y avait beaucoup de rumba, quoi. Il y avait énormément de
Ouais.
rumba. Et donc, du coup, j'étais un peu pas mal baigné par ça, quoi. J'étais pas mal baigné par ça. Ouais.
Trop bien. Et du coup, là, on va écouter un morceau que t'aimes bien, que t'as choisi, qui s'appelle La chanson du mort-vivant de Zone. Tu veux nous en dire un petit mot?
Oui, alors, du coup, c'était l'ancien groupe de Kazé, Zone Libre. Avec Kazé et le guitariste de Noir Désir Serge Tessoguet et avec mon groupe YN, on a eu la chance de partager pas mal de scènes avec son nouveau groupe Ozgang et moi c'est une artiste que j'admire beaucoup, que je suivais déjà pareil aussi à l'époque de ma jeunesse où j'écoutais pas mal de choses d'elle. Le premier morceau que j'ai écouté, c'était un morceau qu'elle avait fait en featuring avec Ekoué. Je me rappelle plus du titre, mais c'était dans la compilation qui s'appelait Fat Taf. Et c'était la première fois que je l'écoutais. Enfin, je trouvais qu'elle découpait tout, quoi. Je trouvais qu'elle découpait tout dans tout, quoi. Énergie, sa voix, ses métaphores. Enfin, j'ai toujours eu énormément de respect pour elle. Et en fait, en tournant, du coup, en redécouvrant, en tournant, du coup, quelques fois avec elle, bah, j'ai redécouvert cette chanson qu'elle chante avec son nouveau groupe. Et le texte, je trouve magnifique. Je trouve magnifique et très contemporain de l'époque. Ça parle, voilà, c'est une chanson qui parle d'apathie, qui parle de comment en fait la société peut nous rendre apathiques et que cette apathie est justement une stratégie de survie. Et moi, je trouve, enfin moi, ça me fout les poils à chaque fois. Je trouve vraiment magnifique ce texte.
Et vous allez voir, c'est aussi peut-être ce qu'on n'attend pas d'un point de vue musical du rap. Donc on va rentrer dans une ambiance qui va mettre du temps à monter et ça sera une immersion totale. À tout de suite!
J'ai du mal à aimer, à trouver mes mots. Et le sommeil s'en prend de comprimés. Je suis inanimé, énormément abîmé. Probablement mort-né, des gens paumés. Je n'ai le goût de rien, mais je sais le mimer. Et mon entrain n'est qu'un écran de fumée. J'ai toujours su très bien jouer à l'humain, manier les banalités et les lieux communs. Mon prénom a été gommé du roman. J'ignore tout simplement où, quand et comment. Et pourquoi je me suis sur moi-même renfermé. Endormi apparemment pour un moment. Je ne suis ni exigeant, ni borné, ni sournois, ni attachant, ni acharné, ni content, ni méchant, ni charmant, seulement peu concerné et désincarné, comme à pas grand chose d'être interné, ou l'invité d'honneur de mon propre enterrement, détourné du monde, seul et épargné par ses petits bonheurs ou ses grands tourments. J'ai beau prendre le problème et le retourner, j'ai effectué un très gros travail sur moi, j'ai occupé la longueur de mes journées, je ne ressens ni l'envie, ni l'émoi, ni la peur, ni l'ennui, ni l'effroi, ni la lenteur des heures, ni le compteur des mois. Pas une seule fois, le poids des années, même une bonne déprime m'aurait bien dépanné. Mais il n'y a que mon crâne noyé dans le néant, et mon corps broyé par un trou béant. Alors dites-moi comment, être foudroyé, sortir souriant et l'art, et puis débrailler, bâtir un foyer, y être choyé, pouvoir bavarder sans bafouiller, être le bon voisin ou le bon employé, le bon mari, le bon ami à côtoyer. Ou ébloui par la nuit et ses néons, le vent, la pluie, le soleil et ses rayons. Et j'ai essayé de crier mon tourbillon, mais ma voix n'a pas pu ôter son baillon. J'ai un bataillon d'histoires à vous détailler, de petits soirs sans festin ni cotillon, de gosses que je ne verrai jamais brailler, en se réclamant être de mon sillon. Donc si vous me voyez, qui que vous soyez, pitié, ne tentez pas de me réveiller, d'être bienveillant, de vous apitoyer, car les morts vivants ne savent pas s'émerveiller.